chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante, pas seulement importante, mais aussi très instructive. C'est vraiment des choses très profondes. Nous arrivons à l'étude numéro 5 de notre série, le psaume 51. Il demeure vrai, oui, que la connaissance de ces vérités que Dieu est seul juste et que nous ne sommes rien que péché. Tout cela se puise uniquement dans la révélation et dans la sainte parole de Dieu. Quand donc la parole de Dieu vient ainsi révéler et manifester le péché, alors il se découvre deux sortes de personnes. Les unes justifiant Dieu et lui donnent gloire en avouant par une humble confession que ses convictions de péché et ses reproches sont justes et véritables, et les autres condamnent ce Dieu qui veut les convaincre de péché. Elles veulent le faire passer pour un menteur. Et cela forme, hélas, le plus grand nombre, car la plus grande partie des hommes condamne et persécute cette sainte parole qui veut convaincre et qui veut découvrir le péché. Et ce ne sont pas seulement les islamistes, ennemis déclarés de la doctrine de la religion chrétienne, qui font tout cela, mais ainsi aussi les papes et tous ses adhérents et tous ceux qui laissent régner en eux les principes et les maximes de la corruption sur lesquels le papisme est fondé. Car ils disent qu'ils peuvent fuir le mal et faire le bien par les enseignements et par les lumières de la raison. Qu'est-ce autre chose que de nier que la nature soit corrompue par le péché? Et cette sentence si célèbre que pourvu que l'homme fasse ce qu'il peut, elle est infailliblement, on peut dire, dans le sens que Dieu lui donne sa grâce et elle ne tend pas au même but. N'est-ce donc pas là, chers amis, accusé de mensonge Dieu? Dieu qui dit dans sa sainte parole que tous ont péché, moi le premier, et qu'il n'y en a pas un seul qui fasse le bien, que tous sont donc égarés et se sont ensemble rendus inutiles. Notez Romains, chapitre 3, versets 11 et 12, ainsi que le psaume 53. Ces paroles ne condamnent pas seulement les grossières convoitises de la chair, comme l'impureté, l'avarice, etc., mais elles font beaucoup plus que cela. Elles vont plus loin. Elles condamnent cet éloignement et cet égarement où l'homme ne cherche point Dieu, où l'homme ne se soucie point de lui, qu'elle est sans foi en ce Dieu dans les calamités et sans crainte, car l'homme est sans crainte, de ce Dieu dans la prospérité. Et sans doute que cela fait bien voir que toute la nature et tous les raisonnements humains avec la volonté sont aveugles. Elles sont ennemies et elles sont contraires au bien et à la vérité. Et c'est parce que nous enseignons et que nous soutenons de telles choses que nous sommes condamnés comme étant des hérétiques et nous sommes traînés au supplice sans aucune miséricorde. Mais c'est là la réalisation de ce que dit cet excellent psaume, que Dieu ne peut pas être justifié et glorifié par les méchants en ses paroles, mais qu'au contraire, il conteste contre lui et le condamne. Apprenons donc et sachons que c'est un grand péché que de débattre ainsi avec Dieu et de le vouloir contester contre ses paroles. Mais faisons plutôt ceci. Quoique nous n'entendions et ne comprenions pas entièrement toutes ces choses, croyons-en pourtant à ce Dieu qui nous le dit et qui rend de nous de pareils témoignages. Car c'est lui qui nous a créés, Yahvé l'Éternel, El Shaddai. Dieu sait bien ce que nous sommes. Il connaît bien quelle pauvre masse de boue est notre nature, mais nous ne le savons point. Un vase de terre, par exemple, dans lequel il s'est fait une fente en se heurtant contre un autre vase, ou par quelques autres accidents. Ce vase ne sait pas qu'il a une fente. Mais par contre, le potier, c'est celui qui l'a formé, et lui le sait très bien. Nous sommes donc, nous aussi, nous avons la connaissance de notre corruption, et c'est pourquoi confessons tout simplement notre faiblesse et disons avec humilité à notre Dieu, « Ô Éternel, je ne suis que terre et que boue, et toi, tu es celui qui m'a formé, tu es mon Créateur. Puis donc que tu témoignes de moi dans ta parole que je suis tout péché, j'en veux croire à ta parole. » Et je veux reconnaître et je veux confesser devant toi cette corruption et cette impiété qui est cachée dans toute ma nature, afin que tu sois toi glorifié et moi confondu, que tu sois toi juste et toute vie, et moi, avec tous les hommes, rien que péché et que mort, que tu sois toi reconnu comme le souverain bien, et moi et tous les hommes comme le souverain mal. C'est ce que je reconnais et je confesse en étant instruit par tes promesses et par ta loi, et non par ma propre raison qui cacherait et qui déguiserait cette impiété et même la recommanderait plutôt que de la découvrir et de la condamner. Mais je trouve plus avantageux à te donner à toi toute la gloire. Une âme qui confesse ainsi ses péchés, eh bien, croyez-moi, c'est celle qui peut prier ce verset de notre psaume avec intelligence. Et elle peut dire, « J'ai péché contre toi, ô Éternel. » afin que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Oui, quand je serai jugé, moi. Voici donc, chers amis, ce qui est ajouté pour notre consolation. car ce jugement que Dieu porte de toute la nature, qu'elle est absolument sous le péché, et que Dieu seul est juste, on a bien compris cela, cela souffre bien des contradictions et des oppositions. Puisque la plus grande partie du monde se rebelle et s'oppose à cette vérité-là, comme nous l'avons déjà dit, même nous portons en nous une naturelle et secrète répugnance à nous soumettre à ce jugement de Dieu pour reconnaître que tout, tant ses promesses que ses menaces, nous convainc de péché. Car même les saints, ils sentent ces malheureux mouvements de blasphème par lesquels ils sont quelquefois indignés de voir condamner toutes leurs meilleures choses, car les saints le sentiront aussi en ce qui leur semble qu'ils prieraient plus diligemment et qu'ils croiraient plus fermement et qu'ils loueraient Dieu plus ardemment, surtout s'ils se sentaient plus purs et plus nettoyés dans leurs affections et dans leurs actions, et s'ils étaient sans péché, si seulement ça pouvait être vrai. Or, voyez-vous, être sans péché en cette vie d'aujourd'hui, surtout comme le monde va, ce n'est pas être homme. Mais être sans péché, ça voudrait dire que nous sommes soit Dieu ou un ange. Et c'est ainsi, chers amis, que le péché qui est encore caché dans les saints lutte contre Dieu et s'oppose à son jugement. Car quoique il soit gouverné par l'esprit, et que par la force de cet esprit il acquiesce au jugement de la parole de Dieu, l'apôtre Paul avoue qu'en lui et dans sa chair, il y a une loi, il le dit lui-même, une loi qui combat contre cet esprit et contre la parole de Dieu. Si donc les enfants de Dieu, s'ils sentent cette perpétuelle contradiction dans leur chair contre Dieu et contre sa parole, faut-il s'étonner si on voit les âmes qui ne connaissent et qui ne se fondent que sur l'extérieur, que ces âmes-là contredisent toutes ces divines vérités? Mais voici une grande consolation pour tous ceux qui admettent ces vérités de la sainte parole de Dieu. Et c'est que quoique il y soit contredit par plusieurs ennemis, pourtant ils n'y succomberont pas. Pourquoi ? Mais parce que ce n'est pas eux seuls qu'on contredit, mais c'est Jésus-Christ lui-même qu'on contredit. C'est sa sainte parole, ce sont ses promesses et sa loi. Et c'est pourquoi l'événement et l'issue de ce combat ne peut être que favorable pour tous ceux qui tiennent à Jésus, selon cette parole qui dit « Afin que tu sois vainqueur, ou que tu aies gain de cause quand tu es jugé. » C'est ainsi que Jésus est obligé de se laisser accuser d'hérésie par le pape. C'est ainsi que notre Dieu, qui promet la rémission des péchés par Jésus-Christ, est contredit et condamné comme étant une dangereuse peste par les hypocrites qui cherchent leur propre justice et leur propre sainteté. Et c'est ainsi que notre raison et notre propre sagesse condamnent la sagesse de Dieu. Mais n'importe. Espérons que nous ayons une issue heureuse. Et ne perdons pas courage. Non, jamais, au milieu d'une si grande troupe de contredisants. Jésus vaincra en nous par sa sainte parole. Et ses cœurs et ses bouches blasphématoires, qui ne veulent point reconnaître leur impureté, et qui veulent joindre à Jésus leur propre sainteté et leur propre justice, tous ceux-là seront confondus et fermés un jour. Voyez-vous, cette malheureuse disposition de la nature corrompue à vouloir chercher toujours sa propre justice, c'est un grand blasphème. Pardon, c'est un grand blasphème contre Dieu. De sorte que ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ le disait aux pharisiens, selon saint Matthieu chapitre 21 verset 31, les péagers et les femmes de mauvaise vie vous dévanceront au royaume des cieux, parce que ceux-ci, vivant souvent dans de grossiers péchés, sont capables de s'humilier et de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Mais les autres, les propres justes, à tout moment, recommenceront de nouveaux combats contre Dieu, par lesquels ils attaquent sa grâce, se défendent contre ses jugements, et ne veulent point se soumettre à ses convictions. Certes, je crois bien, oui, que si nous étions seuls dans ce combat-là, nous serions obligés de céder à la fureur du monde et des hypocrites. Mais nous entendons ici que ce n'est pas nous qui sommes condamnés, mais que c'est au fond Dieu lui-même, dans ses paroles. Et ça, c'est très grave. Voyez-vous, chers amis, si nous sommes accusés et condamnés comme étant des hérétiques, si notre doctrine est regardée et taxée comme étant dangereuse parce qu'elle combat et qu'elle condamne toute la sagesse humaine et tous les soins que l'homme peut prendre pour se rendre Dieu propice, et même s'il y naît des guerres, des querelles, des troubles, eh bien nous avons cette consolation que Jésus vaincra, alléluia, parce que ce n'est pas nous seuls, mais c'est lui et ses paroles qui sont attaquées et qui sont condamnées. Et c'est pourquoi nous sommes assurés, chers amis, qu'il les défendra et qu'il en soutiendra la vérité contre tous ses ennemis. Jésus donne et envoie sa parole afin que les hommes soient sauvés par elle. Et s'ils ne veulent pas la recevoir, s'ils ne veulent absolument pas la reconnaître, il ne permet pas pour cela que sa parole soit foulée, mais il va fouler plutôt ceux qui la combattent, comme l'expérience le prouve très souvent. Cette consolation qui nous soutient contre les excommunications, contre les contradicteurs et les mauvais traitements de la fausse Église et des ennemis du dehors, elle doit aussi nous servir contre nos ennemis intérieurs. Car comme nous l'avons dit, il y a encore dans notre chair, en tout cas dans la mienne, souvent une contradiction et une lutte contre Dieu et contre sa parole. Quand nous sentons ces contradictions et ces mouvements coupables en nous, nous ne devons pas perdre courage. Oh non, travaillons seulement à tenir notre esprit dans la connaissance et dans l'aveu de notre misère et de nos péchés. Quoique nous sentions quelquefois de ces pensées de blasphème contre les convictions de la sainte lumière de Dieu, il arrivera que l'Esprit vaincra comme Dieu qui donne son Esprit Saint obtient tôt ou tard gain de cause quand il est ainsi jugé par les hommes. Mais cette victoire se fait aussi en esprit, car bien souvent, quant aux sentiments et aux mouvements qui se font sentir en nous, il semble parfois que Dieu et l'Esprit Saint soient vaincus et nous, et que la chair et le monde aient le dessus. Car voyez-vous, nous voyons que presque tout le monde, nous voyons que tout le monde nous condamne et nous rejette. Et la chair, elle fait tant de bruit en nous qu'il semble qu'elle éteigne et qu'elle surmonte entièrement l'esprit. Mais prends seulement courage, oui, prends courage, surtout dans tous ces différents combats, et crois seulement que tu n'es que un pauvre pécheur et que Dieu, il veut te regarder comme étant son enfant, oui, comme étant son enfant chéri, si tu te confesses et si tu te sens une pauvre créature perdue, ce que j'étais moi-même. Par cette confession, par laquelle tu vas montrer tes plaies au médecin divin et tu te confonds toi-même, tu donnes toute la gloire à Dieu et tu l'engages à faire son œuvre en toi. Oui, son œuvre qui est de guérir les âmes, ces âmes qui sont malades, car il est lui le divin médecin, le souverain et le céleste. Au contraire, ceux qui ne s'y prennent point ainsi, mais qui veulent sans cesse se flatter dans la vue de quelque pauvre justice à eux, eh bien ceux-là combattent avec leur Créateur. Ils le blasphèment et le renient, ils l'accusent de mensonge et combattent la grâce dont il veut nous favoriser. Il rejette la vie éternelle. Enfin de Dieu, ils vont faire un diable. Tant est grand l'impiété de l'homme, surtout lorsque il ne suit point la sainte parole de Dieu et qu'il ne s'y soumet point. Et même les fidèles sentent souvent de pareilles impiétés en eux, surtout lorsqu'ils ne s'attachent pas assez fortement à la sainte parole de Dieu et à cette confession et à cette connaissance de leur misère. Combien de fois m'arrive-t-il que s'il était en mon pouvoir, je voudrais former, oh oui, je vous le dis franchement, je voudrais former un autre Dieu. Un Dieu qui me dirait par exemple, tu as enseigné avec beaucoup de fidélité. Tu as prié avec beaucoup de ferveur. Tu as planté ma vigne avec beaucoup de soin. Et à cause de tous ces soins, tu me seras certainement souverainement agréable. La nature, elle voudrait bien avoir un tel bon Dieu dont la faveur se procurera par nos propres œuvres. Mais elle ne veut point souffrir un Dieu qui pardonne gratuitement, comme nous le voyons dans nos adversaires, qui ne sauraient rien moins souffrir que d'entendre dire que la rémission des péchés et que la miséricorde de Dieu est embrassée par la seule foi. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël cherchaient un Dieu rémunérateur de toutes leurs œuvres, de tous leurs sacrifices. Mais ils ne pouvaient souffrir, ils persécutaient même un Dieu qui se présentait à eux comme blâmant le péché et comme le pardonnant gratuitement à tous ceux qui le sentaient. Oui, il est vrai que Dieu veut sans doute récompenser une fois largement les bonnes œuvres de ses enfants, comme sa parole le témoigne, mais il veut tout d'abord que nous nous reconnaissions de pauvres pécheurs perdus et que nous nous confessions, que nous demandons pardon en sa pure grâce, que nous acceptons sa pure grâce et sa miséricorde. Alléluia. Il demeure donc bien vrai qu'il y a de deux sortes de gens. Il y a ceux qui confessent que Dieu est seul juste, seul véritable et seul saint, comme toi qui écoutes maintenant. Et il y a les autres. Il y a les impies qui, comme des géants, font la guerre à Dieu et qui lui disent « Oh, ta parole n'est pas véritable, nous ne sommes pas aveugles comme tu le dis et comme le dit ta parole, car il y a encore en moi quelque lumière par laquelle, si je la suis, j'obtiendrai grâce. » Et c'est là, chers amis, faire de Dieu en quelque sorte, je ne sais pas si on se comprend, un négociant, et de lui dire à ce Dieu-là, si tu me donnes quelque chose qui me convient, je te donnerai quelque chose en retour, va savoir. Eh bien, c'est là le sentiment général de tous les docteurs scolastiques, que tu aies gain de cause. Eh bien, le texte hébreu le dit, que tu sois trouvé pur, comme s'il voulait dire, quand tu portes ce jugement sur les hommes, qu'ils ne sont que péchés devant toi. Eh bien, d'abord, la nature se récrie contre ce jugement. Elle condamne comme étant injuste. car la raison, elle ne peut point le supporter, mais le déserte comme étant une hérésie, comme étant une doctrine infernale. Qu'arrive-t-il de là? Eh bien, eux, il est vrai, eux te condamnent et te souillent par leurs blasphèmes et par leurs opinions fausses et erronées, mais pourtant, tu demeures pur. Et ceux qui se prennent ainsi à toi seront tôt ou tard jugés et déclaré impur et injuste, car quand il est dit « afin que tu sois trouvé, toi, pur », il suit de là, par une antithèse nécessaire, que ceux qui condamnent et qui critiquent Dieu dans ses paroles, ils seront trouvés impurs et corrompus. Et c'est la même chose que ce que nous avons dit, que Dieu triomphe et a gain de cause, et non pas ceux qui le contrôlent et le condamnent. Ajoutons encore que comme Satan, il est, et on le sait, il est notre accusateur continuel devant le trône de Dieu. Il est donc bon d'opposer ceci à Satan et de lui dire, écoutez bien attentivement, Satan, si je commets un péché, que as-tu à y avoir? Car ce n'est pas à toi, ni contre toi que je pêche, mais c'est contre Dieu seul. Ce n'est pas toi que j'offense. Et donc, quel droit as-tu sur moi? Si j'ai péché, et que ce soit véritablement du mal que tu me reproches, car Satan, vous savez, il épouvante aussi des pauvres âmes par des péchés imaginaires, ça existe. Il veut faire passer pour péché ce qui n'en est point. Si donc j'ai péché vraiment, eh bien c'est que contre Dieu, contre Yahvé l'Éternel, contre mon Père Céleste, qui est un Dieu miséricordieux et débonnaire. Ce n'est donc point contre toi, Satan, ni contre ta loi, ni contre ta conscience, car tu n'en as absolument pas de conscience, ni contre aucun homme, ni même contre aucun ange, mais contre Dieu seul. Or ce Dieu, il n'est pas un diable, il n'est pas un tyran, il n'est pas un bourreau, tel que toi. Toi qui me veux déjà effrayé et qui me menace de la mort. Mais j'ai un Dieu qui est plein de miséricorde. Il est plein de miséricorde envers les pauvres pécheurs dont je fais partie. C'est un Dieu droit, un Dieu intègre, qui ne change point. Il est plein de pitié et il est juste. Aimons à justifier le pécheur qui est repentant. Ainsi toi, Satan, qui est le père du mensonge et qui est un meurtrier dès le commencement déjà. Tu n'as aucun droit donc sur moi, et ce n'est point à toi à m'accuser, mais c'est Dieu seul qui a ce droit-là, ce Dieu doux et clément, qui prend plaisir à pardonner à ceux qui sincèrement confessent leurs péchés. Il n'a de colère, il n'a de menace que pour ceux qui ne veulent point reconnaître leurs péchés et qui par là nient totalement qu'il soit juste dans ses paroles. Le sens que je viens de donner de ce passage est plein de piété et de consolation contre les dards enflammés du malin. Mais il faut avouer que ce n'est pas le sens propre et naturel, et qu'il ne s'en tire que par une induction. Mais les vues de Satan, en agitant les consciences par les reproches continuels du péché, sont de nous faire oublier ce passage qui dit que Dieu seul est juste et saint, et de nous entraîner ainsi, insensiblement, à chercher quelque satisfaction et que quelque confiance dans nos propres œuvres. Et c'est pourquoi il sera fort utile de s'opposer à Satan de la manière que je viens de vous dire. Et quiconque confesse de cette manière que c'est contre Dieu seul qu'il a vraiment péché, il ou elle trouvera en Dieu un Dieu qui le justifiera et l'absoudra totalement. Car le pécheur pénitent glorifie Dieu par cette confession qu'il fait, qu'il est juste, et Dieu ne peut pas glorifier à son tour un tel pécheur en le justifiant. Il n'y a que les vrais fidèles, les vrais enfants de Dieu qui fassent tout cela. Or les impies, eux ne le font pas. Ils ne le savent même pas. Le psaume 51, verset 7 nous dit: voici, j'ai été conçu en iniquité et ma mère m'a échauffé dans le péché, selon ma version allemande. Mais vous avez une meilleure version qui dit: voici, j'ai été conçu en iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voyez-vous, le prophète, il garde un excellent ordre dans le détail qu'il nous fait de la doctrine de la véritable repentance. Il demande miséricorde et pardon, et on ajoute la cause, parce qu'il est pécheur et qu'il reconnaît son péché, afin que Dieu seul soit trouvé juste, et que nous tous, n'ayons que confusion de face. Il ajoute donc le fondement et il ajoute la source de cette connaissance qu'il avait de son péché et de la justice de Dieu. C'est la sainte parole de Dieu, car c'est par la sainte parole que le péché est manifesté. Maintenant, ce qu'il ajoute doit rendre plus clair et plus excellent ce qu'il a dit. Car David dit, il découvre ici la cause du péché, et comme la source et le fondement de toute l'affaire dont il s'agit, il montre pourquoi il confesse son péché, et il implore la miséricorde parce que, dit-il, j'ai été conçu en iniquité. Que pourrait-il y avoir de plus clair et de plus énergique? Il ne dit pas j'ai tué Uri, j'ai commis adultère, mais ramassant toute la corruption de la nature comme en un faisceau, David dit, j'ai été conçu dans le péché, car il ne parle point de quelques œuvres particulières, mais il parle de la manière même de son être, et il dit, la source même où j'ai puisé la vie, elle est corrompue et absolument gâtée par le péché. La matière dont j'ai été fait, cette boue dont mon fragile vaisseau a été formé, est sous le péché, est sous la condamnation. Que dirais-je de plus? Et voilà donc ce que je suis, nous dit David. Voilà ce que sont tous les hommes. Je suis pécheur, non pas parce que j'ai commis adultère, ni parce que j'ai fait mourir Uri, mais j'ai commis adultère et j'ai fait mourir Uri parce que je suis né pécheur et que même j'ai été conçu et que j'ai été formé dans le péché. Car nous ne sommes pas seulement pécheurs, parce que nous commettons par exemple tel ou tel péché, mais plutôt nous commettons tel péché. Pourquoi ? Parce que nous étions déjà pécheurs auparavant. C'est l'arbre qui est pourri, qui produit le fruit pourri, et c'est d'une mauvaise racine. Et d'une mauvaise racine, il ne saurait croître qu'un mauvais jet. Donc, cette matière du péché originel, c'est une de ces matières que la raison ignore, mais elle s'apprend de la loi et des promesses de Dieu. L'apôtre Paul, il est le seul d'entre les apôtres qui traite cette matière ou à fond et d'une manière particulière. Sans doute que les autres l'ont omis par cette considération que cette doctrine était comme de main en main et par une continuelle profession que l'Église en faisait assez connue. Moïse la touche aussi dans son psaume 90. Il dit, « Tu as mis nos iniquités devant la clarté de ta face. » Où il insinue assez clairement, il faut bien le dire, que nous sommes devant Dieu des objets de sa colère et que nous sommes soumis à la mort à cause de cette colère dont nos péchés, que Dieu voit et que Dieu connaît, sont vraiment toute la cause. Donc, chers amis, la source de ces péchés et de ça et de la colère qu'il attire, c'est que notre chair et toute notre nature ont été corrompues dans le paradis terrestre déjà par la chute de Adam. De sorte que l'homme n'a plus de véritable amour, ni la véritable crainte, tant envers Dieu que envers soi-même, qui soit bien réglé. Et sans doute que cette doctrine, elle était demeurée par une tradition consécutive dans l'Église, jusqu'à ce que Moïse et David pleinement l'ont pleinement couché dans leurs écrits. Et surtout, après eux, il y a l'apôtre saint Paul. Ils avaient donc tous, certainement, puisé toute cette doctrine dans les deux premiers commandements et dans la promesse qui a été faite à Adam et à Abraham, car comme elles promettent la bénédiction, elles insinuent que notre nature est sous la malédiction et sous le règne du diable, dans lequel il n'y a que ténèbres. Il n'y a rien d'autre que ténèbres. Il n'y a rien d'autre que de la haine de Dieu et de la défiance. Voici donc que nous avons dans ce verset la raison pour laquelle nous devons tous confesser que nous sommes des pécheurs et que toutes nos œuvres devant Dieu sont damnables, sont condamnables, mais que Dieu est seul juste. Cette doctrine est très nécessaire dans l'Église, car ni les papes, ni les musulmans ne la reçoivent. Car je peux attester par ma propre expérience que j'ai été longtemps sans savoir cette grande vérité. On discutait souvent, il est vrai, sur le péché originel, mais on disait qu'il avait été aboli tout simplement par le baptême, et que même hors du baptême, il y a encore dans la nature une lumière de reste que, si on le sait, fera obtenir sans doute la grâce. Il est vrai que la volonté est une faculté naturelle, mais il ne considère pas seulement cette faculté comme étant une simple volonté, mais comme voulant le bien. Alors ils disent que cela est totalement naturel, et c'est en quoi consiste l'erreur. Voyez-vous, la volonté, elle demeure dans les démons aussi. Oh oui, elle demeure dans les méchants aussi. Voilà qui est naturel. Mais cette volonté, elle n'est pas très bonne. Et l'entendement n'est pas droit et éclairé. De sorte que si nous voulons droitement parler de notre volonté et de nos facultés naturelles, d'après ce psaume-là, et selon le Saint-Esprit, nous devons dire que notre nature est proprement d'être dans le péché et dans la mort, et que par cette nature, nous ne voulons, nous ne comprenons et nous n'appelons jamais que le mal. En voici donc assez pour aujourd'hui sur la connaissance et sur la confession du péché originel qui naît avec nous, qui est pourtant si inconnu au monde, tout simplement parce qu'il ne se découvre pas par les forces de la nature, par les beaux raisonnements et par les spéculations, puisque bien au contraire, ce sont là toutes des choses qu'il cache, qu'il atténue et qu'il excuse, de sorte qu'il ait besoin de la révélation céleste, la révélation divine, pour connaître cette grande corruption de notre nature. Croyons-en donc à la sainte parole de Dieu et confessons que la chose est ainsi, quoique toute notre nature et toutes nos lumières s'y opposeraient et y contrediraient. Voilà donc la principale doctrine de ce psaume, et même de toute la sainte parole de Dieu et de toute la théologie, sans laquelle il est impossible d'entendre l'Écriture sainte, comme le témoignent assez bien les songes creux de nos théologiens modernes. Chers amis, avant de prier ensemble, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose de merveilleux. Écoutez. Aide, paix et joie vous sont assurés. Votre courage sera récompensé. Quelque pénible que soit pour vous la période actuelle, vous en comprendrez un jour la raison, et qu'il ne s'agissait pas d'une épreuve gratuite, mais d'une préparation que l'amour de Jésus-Christ et sa sagesse avaient prévue afin de vous qualifier pour la grande tâche qui vous sera confiée. Soyez bien persuadés que vos prières reçoivent un exaucement magnifique. Il vous paraît actuellement pénible, mais c'est, pour le moment, le seul possible. Un succès extérieur et temporel ne saurait vous satisfaire. Or, un succès très grand, à la fois temporel et spirituel, vous attend. Je sais qu'un jour, vous comprendrez pourquoi il a fallu tout cela. Vous êtes journellement conduit, mais souvenez-vous qu'il est écrit « Je te conduirai par mon conseil » Psaume 73, verset 24. Or, son conseil, c'est ce que Jésus-Christ a résolu, c'est sa volonté. Et quand sa volonté vous conduit, tous vos désirs sont rarement à cette volonté et à ses désirs, sont donc ramassés, en quelque sorte, dans toute cette volonté. Alors il faut, chers amis, sa volonté divine. C'est votre seule volonté. Alors sa volonté, elle peut vous guider tous les jours de votre vie. Et maintenant, prions. Seigneur, nous t'avons prié de nous faire de mieux en mieux comprendre le bonheur dont jouissent dans ton ciel et près de toi tes élus. Nous te supplions maintenant de nous donner la conviction de notre réunion éternelle avec eux, si par la foi en Christ, nous parvenons aussi à la possession du salut. Ton divin Fils a daigné te dire, « Père, mon désir est que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, ils soient aussi avec moi, afin que tous ne soient que un comme toi, ô mon Père, tu es en moi, et que je suis en toi, que eux aussi soient en nous. Là, Seigneur, près de toi, l'amour ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail. Là, nous serons unis. Nous ne nous souviendrons plus alors de nos épreuves d'ici-bas, que pour bénir le Seigneur qui par sa puissance les aura fait concourir au bien et au salut de nos âmes. Ô Dieu, nous ne naissons que pour mourir. Tu ne nous donnes ici de chers objets d'affection que pour nous en séparer. Mais nous savons, par ta sainte parole, que par la mort, nous entrons dans la vie, et que si tu brises pour un temps des liens qui nous sont si doux et si précieux, eh bien c'est pour les rendre éternels en toi. Seigneur, ceux que nous avons perdus ne reviendront plus vers nous, mais nous irons vers eux. Le temps s'écoule et il finit. L'heure du départ sonnera bientôt pour nous. Alors soyons prêts, soyons vivants dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Exauce nos prières, Dieu de miséricorde. Unis nos âmes dès à présent aux âmes bienheureuses et glorifiées, et qu'avec elles nous t'adorions et nous te disons du fond de nos cœurs. Le salut, il vient de notre Dieu et de l'agneau qui a été immolé. À lui soit donc toute la louange et toute la gloire. Amen. Et chers amis, je voudrais encore vous transmettre quelque chose d'un très lointain passé. Figurez-vous, 1962, j'avais enregistré en Angleterre, évidemment, avec des appareils à bande. Et vu qu'il y a plus d'un demi-siècle, le son, la qualité du son n'est plus la même. Mais le Saint-Esprit peut vous communiquer quelque chose de merveilleux. Mais avant, souvenez-vous que Dieu vous aime. Et il est mon devoir, oui, de vous aimer tous. Aussi, je vous embrasse maintenant et je vous dis, je vous aime de tout mon amour et soyez bénis. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Et maintenant, essayons de vous transmettre quelques chants de ce très lointain passé.
Everybody ride it in Jesus' name. This train is the clean train, this train. This train don't fool no gambler, this train. This train don't fool no gamblers, this train. This train don't fool no gamblers, no 40 creepers and midnight ramblers. This train is the clean train, this train. Don't fool no liars, this train. This train don't fool no liars, this train. This train don't fool no liars, no false pretenders and no backbiters. This train is the clean train, this train. This train don't fool no wankers, this train. This train don't fool no wankers, this train. This train don't fool no wankers, no crap shooters, no whiskey drinkers. But this train is the clean train, this train. Now brothers and sisters, this is a mighty clean train. Won't you come along? Won't you get on board?
yes, sir, you better get on board.
Yeah.